Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui est dédiée à Sainte Marie de Paris, une moniale orthodoxe qui a consacré la dernière partie de sa vie tumultueuse au secours des Juifs persécutés par les nazis. Et pour cette raison, Marie Skoptsov a trouvé la mort le 31 mars 1945 au camp de Ravensbrück. Pour parler de cette personnalité hors du commun à tout point de vue, nous recevons Laurence Varro, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Nouvelle Cité, intitulé « Marie Skoptsov, sainte orthodoxe, juste parmi les nations ». Laurence Varro, bonjour.
Bonjour Alexis Chrysostalis.
Ce livre n'est pas le premier que vous consacrez à Mère Marie. Pourquoi ce retour à elle ?
C'est un retour, effectivement, 24 ans après le premier titre. Un retour parce que les éditions Nouvelle Cité ont bien voulu me penser à moi pour parler de celle qui est devenue Sainte Marie de Paris, mais qui, en 2020, n'était guère connue que du milieu russe, orthodoxe, grec. À l'époque, j'étais saisie par cette vie en lisant un petit opuscule qui lui était consacré, par l'aspect aussi romanesque de sa vie, il faut le dire, et j'ai pensé que c'était important qu'elle soit connue d'un public plus large, disons français, pas forcément chrétien non plus. Après quoi, donc le livre était paru chez Perrin, après quoi elle a été canonisée en 2004. Une édition augmentée est parue chez Salvator. Et puis, 10 ans après, il y a cette proposition de Nouvelle Cité qui est très intéressante à cause de l'angle qui n'est pas biographique, qui est différent.
En effet, nous sommes dans une collection qui a son propre schéma. On va en reparler, mais peut-être d'abord donner les grandes étapes de sa vie. Parcours biographique un peu bref, mais quand même.
Alors, on peut distinguer 3 périodes principales dans sa vie. La première de 1891 à 2023, qui se passe dans l'Empire russe. Elle naît à Riga. Je ne vais pas faire toute la géographie des endroits qu'elle traverse dans l'Empire russe, parce que ça serait extrêmement long. Elle vient d'une famille aisée, sans être très riche. Son père appartient à la haute fonction publique. Ils ont des vignobles à Anapa. Et la petite fille mène une vie de grand air et de lecture dans des conditions les plus agréables qui soient, jusqu'à ce que son père meure alors qu'elle est adolescente. Et là, elle, comme on dit, elle perd la foi, même si l'expression a toujours quelque chose de curieux, comme si c'était un objet qu'on pouvait perdre et puis retrouver. Mais dans son cas, effectivement, elle l'a perdu. Et toute sa vie après sera un cheminement jusqu'au martyr et à la sainteté de quelqu'un qui l'avait puissamment retrouvé. Donc après cette adolescence, elle va vivre avec son frère et sa mère à Saint-Pétersbourg, où elle va manifester très tôt un désir de s'occuper de ceux qui mènent des vies plus difficiles que la sienne. Notamment, elle veut instruire les ouvriers. Bon, elle est dans une tradition très russe avec ce comportement. Puis, elle se marie à 19 ans avec un jeune homme qui s'appelle Dimitri Kousmine Karavaïev, avec lequel elle va fréquenter surtout le milieu littéraire. Elle publie de la poésie, donc elle ne fait pas les choses légèrement. Elle rencontre Alexandre Bloch, le grand poète de l'époque, pour lequel elle n'a d'ailleurs jamais cessé d'avoir un sentiment quasiment amoureux. Lui voit arriver cette jeune fille de 15 ans et heureusement, on l'a laissée repartir. Au moment de son mariage avec Dimitri Kousmine Karavaïev, elle est donc quelqu'un qui est essentiellement intéressé par les conversations à la russe, interminables, toute la nuit, et se lever le plus tard possible le matin. Donc une vie, sous certains aspects, un peu superficielle malgré tout. Et puis ce mariage se décompose, elle va être enceinte d'un homme dont on ne connaît pas le nom, mais comme elle est toujours mariée, c'est Dimitri Kousmine Karavaïev qui est le père, la petite Gaïana. Et arrive la guerre de 14, qui est la deuxième guerre qu'elle vit, parce qu'elle avait vécu la guerre russo-japonaise de 1905 d'une manière très, très violente. Ça l'avait beaucoup impressionnée, elle jeûnait avec son frère. Arrive la guerre de 14 et la révolution russe. À ce moment-là, elle est déjà quelqu'un qui s'est intéressé à la théologie, puisqu'elle a été la première femme admise à l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg, mais pas en ce qu'on appelle maintenant le présentiel, puisqu'elle avait été admise à suivre des cours par correspondance, et elle avait validé, si je puis dire, toutes les options qui avaient été prises. Elle va se lancer dans la politique avec les socialistes révolutionnaires. Elle est à Anapa dans la propriété familiale, et puis, à un moment, la ville d'Anapa est reprise par les Blancs. On est dans une sorte de cavalcade qui ressemble à un film de Jean-Paul Rapneau, parce qu'il y a quelque chose de romanesque et de cinématographique dans sa vie. Et un Cosaque qui est là et qui a des responsabilités administratives tombe tout de suite amoureux d'elle, coup de foudre, mariage. Il va l'embarquer dans le périple des Blancs qui vont finalement rejoindre la France, mais en passant par Constantinople. Périple qui est très bien connu des historiens. Et donc, elle part avec son mari, son nouveau mari, la petite Gaïana et sa mère, puisque on a toujours, en bonne russe, on a toujours la mère avec soi. Ils vont passer par les Balkans. Elle va mettre deux enfants au monde dans les Balkans, la petite Anastasia et puis Georges, qu'on appelle Yura. Là, ils mènent une vie absolument misérable. Ils arrivent finalement à Paris. Pourquoi Paris ? Pour deux raisons. D'abord, c'est un pays foncièrement encore chrétien, en tout cas dans sa tradition et sa civilisation. Et aussi parce qu'en 1893 avait été signée l'alliance franco-russe entre la République française et l'Empire russe. Donc, ils arrivent là. Lui, bien sûr, devient chauffeur de taxi. Elle fait des travaux de couture. Et drame... La petite Anastasia meurt d'une méningite bactérienne. Elle s'engage à ce moment-là dans un mouvement d'abord dépressif, ensuite de... Elle surmonte les choses et s'engage dans l'action, dans l'ASER, l'Association des étudiants russes, et donc dans une action sociale assez déterminée. Simplement, ce mariage-là ne va pas tenir très longtemps non plus. Et pourquoi ? Parce qu'elle perd cet enfant. Elle a perdu cet enfant. En 1932, sur les conseils de Monseigneur Eulogue, qui est à ce moment-là le métropolite à Paris, elle devient moniale. Et la mère Olga au monastère de Bussy en Othe m'avait dit il a voulu absolument en faire une moniale, elle n'était pas du tout faite pour ça. Elle est tombée sous les ciseaux de Monseigneur Eulogue. Alors sa personne ne saura jamais ce qu'ils se sont dit en secret. Elle aussi avec le père Bulgakov qui était son père spirituel et dont elle disait qu'elle lui devait tout. Comment s'est prise cette décision ? En tout cas, elle s'est prise. Et en 32, elle part quelque temps dans les pays baltes pour faire une sorte de stage de formation, une école d'application en quelques semaines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a mené une vie de mère de famille essentiellement, et ensuite, elle va pas passer par le noviciat à l'âge qui est le sien. Elle commence par ouvrir un monastère avec des moniales traditionnelles à Paris dans le 7e, mais débordée par la demande d'aide sociale, très vite elle quitte le 7e, elle va dans le 15e, et il loue au 77 rue de Lourmel un grand bâtiment Second Empire, où là elle va pouvoir développer une action sociale beaucoup plus importante et créer ce qu'on a appelé l'action orthodoxe, qui est un mouvement où on fait aussi des congrès, et pas seulement de l'action sociale pour les pauvres, qui sont très nombreux à Paris. Berdiaev, Bulgakov, Konstantin Mochulski, Théodore Pianov et Elie Fondaminski, un juif qui se convertira au christianisme et qui mourra dans un camp parce qu'il voulait vivre avec les chrétiens mais mourir avec les juifs, la rejoignent. Elle continue de publier, parce qu'elle a publié de la poésie, mais elle continue de publier des textes, soit dans des revues, soit dans des recueils de poèmes. Et elle voit arriver avec une intuition très forte, à partir de 1933, enfin, dans les années qui suivent, la possibilité de la guerre. Et surtout aussi, très étrangement, la possibilité de son propre destin à elle comme tragique. Donc arrive l'occupation, elle va se consacrer d'abord à redévelopper d'une manière plus puissante l'action orthodoxe sous l'aspect social à rue de Lourmel, parce que avant d'être persécutée d'une manière dramatique à partir de 1942, l'étau se resserre autour des juifs sur des questions professionnelles. Décret par décret, publication de décret par publication de décret, il commence par être exclu de certaines professions, ce qui va évidemment poser d'abord un problème économique. Après quoi, elle va perdre une deuxième fois un enfant, c'est la fille aînée Gaïana qui était revenue en URSS. Pourquoi ? Parce que sa mère s'occupait pas tellement d'elle, en fait. Et elle était repartie là-bas et elle est morte en URSS. Drame, culpabilité. On est dans une période absolument dramatique et Mère Marie continue de se consacrer entièrement aux autres, mais aussi au plus lointain, puisqu'on y reviendra tout à l'heure, c'est un élément dominant dans sa façon de voir les choses.
Ce que je propose, c'est que nous fassions maintenant notre pause musicale, qui est une pause en prière. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui au cinquième dimanche du Grand Carême, qui est dédié à Marie l'Égyptienne, qui est une sainte de l'Antiquité, mais dont la vie a quand même beaucoup de choses en commun avec celle de Sainte Marie de Paris dont vous parlez. Et ça va être un extrait de la liturgie des dons présanctifiés, des versets en fait du psaume 140, par le chœur du Pater Carus sous la direction d'Anatoli Gridenko. Et après cet extrait de la liturgie des dons présanctifiés, le psaume 140 donc, par le cœur du patriarche Carus sous la direction d'Anatoli Gridenko, retour à notre conversation avec Laurence Varro sur son livre « Marie Skoptsov, sainte orthodoxe, juste parmi les nations ». Sainte orthodoxe, juste parmi les nations. Alors Laurence, si vous voulez bien, on va finir avec cette vie tellement romanesque, comme vous avez dit, de Marie Skoptsov. c'est la dernière partie de sa vie. Elle est à Paris et cette partie va être entièrement consacrée à la cause juive.
Oui, d'ailleurs, elle considère qu'en tant que chrétienne, elle se doit de se l'approprier. Elle dit, il n'y a pas de question juive, c'est une question chrétienne pour nous. Ce sont les Anciens Testaments, si nous étions véritablement chrétiens, nous porterions tous l'étoile jaune. Et effectivement, elle se consacre à eux rue de Lourmel, elle en cache en permanence, comme elle est très imprudente, elle parle trop au téléphone. Quand elle apprend qu'il y a la rafle du Veldiv, donc là on est en juillet 42, elle y va immédiatement parce que c'est à 10 minutes à pied, et elle va y passer 3 jours et sortir trois enfants de poubelle. Elle est trahie, elle a été repérée, elle est trahie. De toute façon, les Russes devaient se soumettre à des contrôles constants, surtout des apatrides de Postport Nansen, comme était Marie Skopsov, c'était rue Galliera, la direction des affaires de l'émigration russe. Et ils sont convoqués, elle et le père Klépinine, qui est alors le recteur de la rue de Lourmel, qui lui a une action dans la résistance d'une manière beaucoup plus formelle, beaucoup plus militaire en quelque sorte. Après une première convocation, finalement, en février 43, tout le groupe est arrêté. Arrêté rue de Lourmel, mère Marie Skopsov est fouillée devant sa mère, elle s'en va et elle est arrêtée avec son fils Georges, qui a une vingtaine d'années, qui se préparera au sacerdoce au camp de Royallieu où il sera d'abord de passage avec Dimitri Klépinine. Et mère Marie Skopsov, donc Sainte-Marie de Paris maintenant, est déportée à Ravensbrück où elle aura comme co-détenue notamment Geneviève de Gaulle, Rosanne Lascrou qui rapportera un foulard brodé par mère Marie, Marie-Josée Chombard de Lauve qui est toujours parmi nous, toutes sortes de personnes qui ont pu dès 45 témoigner puisque elle meurt le 31 mars 45, donc après 2 ans, à la veille de la libération du camp. Elle est envoyée dans la chambre à gaz qui avait été installée à la fin 44, quand les Allemands ont décidé d'effacer le plus possible les traces de leurs crimes et les êtres vivants qui pouvaient encore témoigner. Et dès 45, dès après sa mort, les témoignages commencent à apparaître. Elle a été repérée Fama Sanctitatis. Elle a été considérée rapidement comme une sainte par ceux qui la connaissaient. Elle a pu être reconnue par les très proches de la famille, évidemment, par le père Lev Gillet, par son second mari Daniel Skopsov qui a écrit. La femme du père Klépinine, Tamara, a laissé un témoignage oral. Constantin Motchulski, qui est l'auteur d'une biographie de Dostoïevski, a laissé un témoignage écrit, qu'on peut retrouver dans la revue Contact. Et finalement, souterrainement, un peu comme les broderies qu'elle savait faire, puisque c'était une brodeuse hors pair et un peintre d'icônes, souterrainement, la vie de mère Marie Skopsov continue, mais d'une manière discrète, à se développer et la connaissance que les gens ont d'elle. Jusqu'à ce que plusieurs publications et surtout la décision de la canoniser prise par le patriarcat de Constantinople en 2004, et la canonisation aura lieu rue d'Aru, la fasse beaucoup mieux connaître.
Écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, le temps ne permet pas de développer cette vie et surtout autant de sujets. Son rapport aussi à la maternité. Il faut rappeler qu'elle a eu 3 enfants, que ses 3 enfants sont morts avant elle. Son rapport aussi à sa propre mère, cette grand-mère qui en fait survit à la fille et aux petits-enfants, hein, et qui aura comme tâche aussi au début de faire durer la mémoire. Je rappelle aussi que la fête de tous ces saints, donc que l'Église a reconnu comme saint en 2004, comme vous avez dit tout à l'heure, leur fête est le 20 juillet, donc on peut toujours rendre honneur à mère Marie Skopsov. Aussi que dans le 15e arrondissement, je crois, il y a une plaque, non, qui rappelle son passage. Voilà.
pour tout dire, c'est une idée que j'avais eue.
Oui.
La plaque a été posée et une mère adjointe du 15e, passant devant la plaque, s'est intéressée à Mère Marie, a lu ce qu'elle pouvait avoir comme livre à disposition, et a proposé au Conseil de Paris qu'une rue Mère Marie Skoptsov soit baptisée juste à côté de la rue de Lourmel, ce qui a été fait. Et il y a même une station Vélib qui porte son nom, ce qui était tout à fait improbable.
Voilà, écoutez, merci beaucoup. Alors pour terminer, un petit extrait qui renvoie à ce que vous avez dit tout à l'heure sur sa position vis-à-vis de la question juive. Il n'y a pas de question juive, il y a la question chrétienne. Ne voyez-vous pas que c'est contre le christianisme que la lutte est engagée? Si nous étions de vrais chrétiens, nous aurions tous porté l'étoile jaune. Les temps de confesser la foi sont arrivés. Laurence Varro, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître, Marie Skoptsov, Sainte Orthodoxe, juste parmi les nations, édition Nouvelle Cité, 2024. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation Félix Levachet. Prise de son Jean-Guilain Meige. Vous pouvez écouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Soleil, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.